intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la poubelle.
Hola, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute du Canu Info de ce jeudi 6 janvier 2022. Et après encore des moments d'absence dont à chaque fois on s'excuse de pas être là. Que voulez-vous? En tout cas, nous revoilà en forme pour cette nouvelle année. On vous la souhaite douce, heureuse, rationnelle, intéressante. Et moi, j'ai demandé un truc cette année pour 2022. Je l'ai dit à Laurent, mais il a l'air de douter de la réussite de mon projet. C'est que je veux du pognon.
Ça y est, l'autre est l'abattement capitaliste.
Ah non, 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 non. On peut gagner du pognon, je sais pas. Je joue pas au loto, mais vous voyez, il pourrait y avoir des manières qui ne seraient pas capitalistes, mais qui le seraient pour l'entreprise FDJ.
Tu veux dire la réappropriation, des choses comme ça?
Bah, j'en sais rien, voilà. Il y a d'autres moyens d'avoir du pognon, mais en tout cas, on peut vous en souhaiter du pognon, surtout si vous en manquez, parce que vous en avez déjà. Bon, bah écoutez, vous ferez ce que vous avez, mais sinon, le partage effectivement des richesses peut être une grosse demande pour 2022, avec ces élections qui arrivent. Élections, nous allons en parler un petit peu ce soir, enfin comme ça, hein, parce qu'il faut bien nous parler un petit peu de certaines idées de nos candidats et candidates. Nous parlerons aussi de ni Dieu ni Maître avec toi, Laurent. Nous parlerons de science et de Dieu. Nous parlerons de la vie du capital. Hein. Vous savez, ce capital, des fois, il lui arrive des choses, et ce sera le cas avec Theranos. Puis on parlera aussi de ce qui arrive pour les vendeurs de CBD. Et puis nous finirons avec des histoires de fascisme, de racisme et de flics dedans. Ça va souvent ensemble.
Exactement.
Alors on va parler un petit peu d'élections, si vous voulez bien, pour commencer.
T'as eu le courage de faire un sujet sur les élections.
Bah non, mais tu vas voir, c'est pas super sérieux non
plus.
Ouais,
j'ai vu.
Oui, parce que le premier, j'ouvre en douceur, mes amis.
Ouais, c'est le meilleur.
Monsieur Mélenchon, donc la France Insoumise, candidat maintenant, éternel, on va dire, de la France Insoumise. On se demande ce que la France Insoumise ferait sans Monsieur Mélenchon.
Bah de toute façon, elle n'existerait pas.
Ah si, moi je pense que ça pourrait faire plein de choses. Mais on avait une discussion sur l'info, il faut se rappeler qu'aujourd'hui on parle des unions des gauches. Alors déjà, des gauches, ça va être problématique. Mais il faut se souvenir que la France Insoumise, c'est déjà une union de plusieurs groupes politiques qui n'arrivaient pas à s'en sortir tout seuls et qui à un moment se sont mis ensemble. Il faut se souvenir qu'au tout début de la France Insoumise, il y a eu quelques éclats, en particulier aussi à Lyon, on s'en souvient, les militants et les militantes, ils n'avaient pas l'habitude de travailler les uns avec les autres sur du concret, il y avait des idées qui n'étaient pas forcément partagées, ça a été très compliqué, je crois que ça peut l'être encore.
Donc, parce que maintenant ils suivent le leader Maximo.
Je ne suis pas sûre que ce soit si vrai que ça de partout et si éternel que ça. En tout cas, toujours est-il que vouloir continuer à unir cette gauche, ça semble mal barré. En tout cas, Madame Taubira a continué à dire cette semaine que peut-être que oui, mais peut-être qu'elle ne savait pas. Alors du coup, elle nous fait bien marrer. préférée. De toute façon, nous, on n'est pas sûr qu'elle soit à gauche, hein, parce qu'il suffit pas d'être antiraciste.
Enfin, économiquement, on sait qu'elle est à droite, ouais.
Hein, voilà, d'accord. Alors déjà, bon, vous aurez remarqué que déjà, du côté de l'extrême droite, ça s'est bien rempli. Parce que bon, il y a les gros dont on parle, hein, Monsieur Zemmour, Madame Le Pen, Madame Pécresse. Vous voyez, c'est ça tient bien. On pourrait ajouter les petits aussi, les Asselineau, tous ces gens-là, les Philippot, hein, qui vadrouillent, qui n'obtiendront peut-être même pas leurs 500 signatures. On en discutera tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a du monde à l'extrême droite, ça tient bien. Bon, après, à droite, on a Monsieur Macron, droite conservatrice et libérale, hein, qui s'est bien installé. Il y a un moment, il avait essayé de nous faire quand même croire qu'il était de la droite libérale de centre-droit. Bon, visiblement...
Il est aussi très conservateur, du coup.
Il est très conservateur, on s'en est bien rendu compte. Alors du coup, c'est marrant, parce qu'au centre, il n'y a plus personne, un peu. Alors, il y a Madame Hidalgo, peut-être, parce que... mais elle est un peu fouillée, et surtout, elle est assez inaudible en ce moment. On se voit bien.
Ouais,
elle veut de l'union, ouais. Pas de l'union, déjà, elle n'est pas très claire. Et puis...
Elle est désespérée.
Je crois qu'elle est désespérée. Puis alors, question programme, le Parti Socialiste, de toute façon, on ne sait plus bien. Il y a le Parti Communiste aussi, qui est un peu inaudible, il faut le dire. Alors, il essaye un petit peu d'exister. On a les Verts qui essayent de faire... qui est là, parce qu'il y a une médiatisation des Verts, hein, aussi. Donc, du coup, ça marche. Il y a Monsieur Poutou qui a peu de médiatisation, mais qui a un certain succès sur les réseaux sociaux, il faut le dire. C'est quelqu'un qui a réussi très, très bien saisir les médias sur Internet.
Et puis, contrairement aux autres, prostitue pas, là, il fait pas de la réclame, il défend ses idées, il est assez clair, il a l'habitude, c'est toujours un peu les mêmes, des vraies idées de gauche, et du coup, il s'en sort moins mal que les autres dans le cirque médiatique, alors qu'il est plutôt dans un anti-cirque médiatique, dans sa manière de faire, souvent, moi, je trouve, et finalement, c'est lui qui a un vrai discours de fond. Les autres, ils n'ont pas de discours de fond.
Il y a un programme, que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, mais c'est vrai qu'il y a un programme. Après, il y a encore l'extrême gauche, dont du coup, plus personne ne parle. Et puis, les petits partis, on va voir ce qui va pouvoir se passer. Hein. Les partis animaliers, toutes ces choses-là, lutte ouvrière, bon, donc, qui sont complètement aussi, alors là, invisibilisés dans les médias, ouais. Vraiment. Hein. Mais c'est vrai que, si tu dis que M. Poutou, c'est vrai qu'il il rappelle souvent son programme. Et puis, il a un programme un peu énergique. Hein. Il parle des violences policières, donc effectivement, ça résonne dans une certaine extrême gauche.
Oui, puis il fait moins du racolage. Les autres, ils parlent d'un drapeau dont on n'a rien à foutre. Ils parlent que des sujets dont on n'a rien à faire et qui ne sont pas importants. Alors que lui, il est sur le fond, sur la pauvreté.
Donc du coup, on a M. Poutou qui a des idées...
Je ne vais pas défendre M. Poutou, je ne vais pas faire la propagande de ce gars, mais...
Qui a des idées et tout. Puis du côté de la France Insoumise, c'est vrai qu'à un moment, il y avait un petit peu des idées, un programme. Et puis on a l'impression que M. Mélenchon ne porte plus rien. Par contre, il a des idées.
Il se porte lui-même déjà.
Pour aller sur scène. Et donc, il a décidé de transformer, encore une fois, ses meetings en grand moment de spectacle. C'est bien parce que, comme on en manque et qu'une certaine partie des salles sont fermées, on peut aller au meeting et on peut aller rigoler. Et là, après donc le machin en hologramme et tout ça, que c'était rigolo, nous voici donc avec le meeting immersif, déjà, et olfactif.
Le côté olfactif, j'avoue que je ne vois pas l'intérêt qu'on sente Mélenchon, mais bon, après...
Je crois que l'idée, c'est pas que tu sentes Mélenchon, si tu veux, peut-être qu'il sent des pieds, je ne sais pas. En tout cas, là, le 16 janvier, ça va se passer à Nantes, et là, l'idée, c'est d'être dans un cube... avec 50 mètres de côté par 6 mètres de haut, qui va accueillir 3000 personnes. Et dans cet ensemble, il va y avoir des vidéoprojecteurs, 16, qui vont diffuser des images à 360 degrés. Là, je suis en train de vous parler...
Des images du leader Maximo.
Immersif. Oh, bah... peut-être de ses pieds qui puent, je ne sais pas. Donc, en tout cas, l'idée, c'est quand même... c'est ça, l'immersif. Hein, vous voyez, vous allez être à 360 degrés. Comme ça, tu vas pouvoir être aussi... l'idée aussi, c'est pouvoir que toi, de chez toi, dans ton canapé, hein, tu puisses aussi suivre peut-être tout ça, que ce soit vachement rigolo. Alors, ce qui est marrant, c'est que plein de gens de la France Insoumise se sont mis à nous raconter ce qui allait se passer pour essayer de nous vendre le machin. Il y a eu des bons commerciaux, hein, là, quand même, qui se sont mis dessus. Il y a eu Bastien Lachaud, par exemple, qui a fait une conférence de presse. Hein, c'était hier, mercredi. On a aussi Clémentine Autain qui est montée hein, au créneau pour, en tant que commerciale, hein, nous vendre cette histoire pour nous dire qu'on va ressentir des émotions
et
se projeter dans le monde d'après, car la politique, ça travaille les imaginaires. Je vais jusqu'au bout.
Mais du coup, ils sont dans la même démarche que les autres, c'est-à-dire c'est y a plus le fond là, c'est pas le fond qui compte, c'est la forme. Hein. Ils vont bientôt fournir les tablettes où on va lécher la tablette pour avoir le goût d'un produit. Mélenchon, il est dans ce truc-là, dans cette phase de pseudo-connectivité, pseudo-modernisme inutile en fait.
Alors, il va y avoir des stimuli visuels qui vont être accompagnés de sons spatialisés, et puis il y aurait des parfums naturels. Il va y avoir.
Ouais, c'est ça. Ça va sentir. sortir.
J'utilisais le conditionnel parce que en fait, faudrait que ça marche déjà.
Il paraît que ça marche. C'est un peu concert de Pink Floyd, du coup.
Alors, écoute, et tout à fait ça, puisqu'après, Clémentine, elle explique, hein, Clémentine Autain, dans une première partie, il va y avoir des fragments de textes, je la cite, de poèmes, de textes philosophiques, politiques, littéraires qui vont être lus.
Du coup, c'est du spectacle. C'est...
Ah, ils étaient dit qu'elle allait au spectacle.
En fait, ils vont jusqu'au bout de la démarche. On fait que du spectacle.
Et puis, il y a Jean-Luc qui, lui, va être projeté dans un espace en 3D. Ça, c'est pour le côté immersif. On a toujours. Voilà. Bon. Mais il paraît que. Alors, je cite, on va pouvoir parler des nouvelles frontières de l'humanité. Là, je mets un blanc pour vous réfléchissez bien tout ce que ça peut impacter quand même dans ces élections.
On va très loin là.
Donc, il paraît qu'effectivement, c'est des technologies utilisées hein, dans le spectacle. Donc, la France Insoumise récupère ce côté spectacle pour ses prochains meetings.
On est tombé bien bas.
Je sais pas. Écoute, mais c'est. Je suis à deux doigts de rien de vouloir d'y aller à Nantes, juste pour voir si jamais du coup c'est quoi les odeurs, parce que je suis ça me... voilà. Alors ensuite il y a eu d'autres idées, hein. Donc évidemment hein, le truc de la semaine, c'est Madame Pécresse qui veut ressortir le Karcher de la cave là où Monsieur Sarkozy l'avait rangé, enfin depuis qu'il est parti. Madame Pécresse qui a pris une extrême droiture. Très clair hein, dans cette campagne politique, il n'y a vraiment aucun doute hein, sur sa position. Bon, faut dire qu'elle est accompagnée par Éric Ciotti, qui lui-même avait voulu prendre un peu cette place de candidat à la présidentielle pour les Républicains. Donc, elle a choisi quand même d'être accompagnée par quelqu'un d'extrême droite. Hein,
bien ancrée. Elle reprend la propagande sarkozyste. Et l'idée de faire l'apologie d'une marque hein, qui s'appelle Karcher.
Voilà.
Donc, pour des nationalistes un peu fachos, ils reprennent une marque qui s'appelle Karcher. C'est un peu bizarroïde.
Alors, donc elle est ce jeudi dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Elle va parler sécurité, hein, puisque c'est, il paraît, ce qu'il y a de plus important. Donc, c'est comme ça qu'elle nous a ressorti son histoire de Karcher. Puisqu'il est temps de remettre de l'ordre dans la rue, je la cite. On ne donne plus de réponse face à la violence des nouveaux barbares. Parce qu'il y a les anciens, puis il y a les nouveaux. Alors les anciens, a priori, ils ont...
Ils sont peut-être partis.
Ouais, ou ils ont vieilli. Je ne sais pas. Donc elle a dit que c'était le thème de sa campagne.
Ça, on s'y attendait.
Je vais dire, on n'est quand même pas non plus extrêmement surprise tous les deux. Hein. Je ne vous non plus, j'imagine, qu'ils nous écoutaient. Donc elle explique, dans une interview qu'elle a donnée, je suis en train de chercher à quelle... à la Provence, excusez-moi. Qu'elle voudrait utiliser des brigades coup de poing. Incluant des moyens numériques.
Bolsonaro sort de ce corps.
Alors, je reprends des brigades coup de poing, incluant des moyens numériques, le fisc, mais aussi l'armée, afin de sécuriser les périmètres d'intervention.
Et donc, les coups de poing, on voit bien ce que c'est tu prends quelqu'un, tu tapes sur la gueule.
Alors, les brigades coup de poing.
Avec un point numérique, ça, c'est moins évident.
Alors, les moyens numériques, peut-être qu'elle veut nous filmer, nous, quand on se fait prendre des coups de poing. Ah, oui. Alors, le fisc, je sais pas. Et puis, l'armée, tout de suite, on appelle à l'armée, ça me paraît toujours être une bonne idée.
De toute façon, elle sert à rien, alors autant s'en servir pour tabasser.
Elle veut créer aussi, donc, Madame Pécresse, des centres de détention provisoires. Puisqu'elle estime que on a à cause de Madame Taubira arrêté de mettre des gens en prison pour des courtes peines. Donc ça serait bien de pouvoir les remettre un peu plus longtemps, voire carrément beaucoup plus longtemps, et puis surtout qu'on soit plus nombreux à avoir des courtes peines. Donc elle a dit qu'elle promettait de créer 20 000 places de prison supplémentaires. Bon, elle a expliqué que ce serait pas pour tout de suite si elle était élue, mais que quand même. Elle s'y engageait, alors que c'est pour ça qu'il fallait donc du coup qu'il y ait des centres de détention provisoires. Donc elle explique qu'il faudrait utiliser des lieux qui sont aujourd'hui désaffectés. C'est sûr que des anciens sites industriels, je sais pas, elle explique quoi, qu'on va mettre les gens comme des animaux dans des cages.
Ou dans des camps, que ça fait quand même un peu comme les camps. Comme
ah, mais c'est horrible, j'osais pas le dire, tu vois, mais je trouve ça. C'est tout à fait bizarre. Voilà, en tout cas, elle a des prisons, des prisons, ils ont fait de la puce. Des idées quand même assez thématiques, hein, posées. Et puis on a M. Macron qui ne s'est toujours pas présenté officiellement, qui n'a officiellement pas présenté sa candidature, je vais faire une jolie phrase, mais qui commence à nous sortir tout plein d'idées. Donc on se dit quand même, M. Macron va y aller. Alors il a une idée qui, ça aussi c'est une thématique, qui revient mais jamais vraiment, et puis les gens ne savent jamais quoi en faire, et puis en même temps nous on trouve qu'ils ont toujours des idées complètement débiles. Alors M. Macron a donc expliqué dans Le Parisien, parce que vous avez compris qu'aujourd'hui le gouvernement et l'État n'a plus de conférences de presse, n'a plus d'organes de diffusion, de sites internet, non, maintenant c'est Le Parisien qui sert de... de médias, de transmission de l'information.
Porte-parole premier du gouvernement, ils ont chopé,
ils ont pris l'abonnement,
un créneau. Ouais, je pense que c'est bon pour eux. Là.
Un abonnement avec lecture et parlotte à l'intérieur. Donc, Monsieur Macron est allé donc donner cette interview aux Parisiens et il a parlé des droits de succession, donc du patrimoine, et il a dit il faut accompagner les gens pour les aider à transmettre les patrimoines modestes. Donc là, il fait du populisme, il explique que donc, si t'as pas grand-chose à transmettre à tes enfants, lui, il va faire quelque chose. Il aimerait bien y réfléchir que quand même tu puisses transmettre ta petite chose à tes petits-enfants. Hein, bon, il parle de transmission populaire.
Un thème assez classique de la droite, hein, de supprimer les droits de succession. Hein, parce que c'est
Le truc, c'est qu'à la base, Monsieur Macron, comme il vient pas forcément d'un système de transmission, il pensait qu'il fallait taxer la succession au début, hein, quand même, quand il a commencé en politique.
Comme les
parce que c'était la méritocratie qui était l'important, et c'est par ça qu'on réussissait, et que donc il fallait taxer la succession.
Et on rappelle, la création, c'est pour casser les familles bourgeoises qui monopolisaient et l'argent et le pouvoir. C'est pour ça que les révolutionnaires se battaient pour ces taxations.
Donc aujourd'hui, on a un monsieur Macron qui tente de vouloir changer les choses, mais par le bas. C'est-à-dire par la France du bas.
En faisant croire que c'est pour les pauvres.
Ce qui est intéressant quand même, c'est que monsieur Zemmour s'est exprimé très clairement en disant qu'il fallait abaisser les droits de succession pour que les étudiants puissent en profiter. Ça me fait toujours marrer. Du coup, de quel étudiant nous parlons? Marine Le Pen, Valérie Pécresse pour une baisse des droits de succession, bien évidemment. À gauche, on pense qu'il faut renforcer les droits de succession, mais il y a aussi une partie autre de la population qui pense que pourquoi est-ce que vos parents devraient vous transmettre un patrimoine? Il y a une vraie question derrière, politique et différente, qui est de dire en quoi l'héritage, l'argent de mes parents devrait me revenir. Vous avez 4 heures. Il y a d'autres solutions. Pourquoi est-ce qu'on devrait transmettre ce patrimoine? Pourquoi est-ce qu'on devrait absolument récupérer un argent qui n'est pas le nôtre, a priori?
Oui,
et puis,
la redistribution est donc très inégale, puisque
c'est bien la problématique.
C'est la problématique. Et l'idée des droits de succession, c'était ça. C'était de faire une redistribution beaucoup plus égalitaire, dans le sens où l'État ponctionnait cet argent. Alors, on peut discuter après de l'État, pas de l'État, tout ça, mais bon, dans le système de la démocratie représentative, l'État ponctionnait ses riches et redistribuait l'argent aux pauvres, puisque c'est ça quand ils font en donnant des aides, alors je dis pauvres, hein, c'est entre guillemets, mais à ceux qui en ont besoin du coup, celles et ceux qui en ont besoin, à travers les APL, à travers, et c'était bien ça la redistribution de l'État.
Tu sais qu'il y a aussi d'autres arguments, c'est que de dire que c'est bien, tu mets ton argent de côté. Alors, plutôt tu vas le dépenser, ça va faire vivre l'économie et la croissance. Il y a des gens qui proposent qu'il faut arrêter d'épargner, arrêter de vouloir absolument capitaliser pour nos enfants, parce que plutôt dépensons l'argent et puis faisons vivre l'économie, ça fera du travail et tout ça. Je vous la fais courte, mais il y a cette idée-là. Et puis, il y a quand même aussi une réalité aujourd'hui où les gens vous disent, mais si ma maison, je vais la transmettre à mes enfants. Mais la vraie réalité, c'est que cette maison, elle va plutôt te servir à payer ton EHPAD. Il faut être assez conscient qu'aujourd'hui, en vieillissant, on va avoir besoin de cet argent si jamais nous sommes toujours dans cette situation qui est de dire, il faut payer des soins, il faut payer un lieu pour être accueilli, et donc cet argent-là, il faut arrêter de croire qu'on va le transmettre pour la majorité d'entre nous, quand on n'a pas beaucoup d'argent, parce qu'en fait, il va bien falloir que nous-mêmes, on puisse vieillir confortablement. Donc voilà, il y a un moment, il y a un vrai débat à avoir sur cette... est-ce que la succession doit avoir lieu? Est-ce que cet héritage nous appartient ou pas, en tant que descendants et descendantes? Et là-dessus, on ne peut pas dire que nos politiques aient vraiment décidé de se pencher sur cette question-là.
Bon, à droite, ils sont très droits du sang, quoi qu'il arrive, pour toutes les questions. Donc, du coup, le patrimoine doit revenir aux enfants du même sang. C'est ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Tu nous as fait ta campagne présidentielle?
Non, je n'ai pas fini. Allez, un petit dernier, après c'est à toi. Je te laisse c'était tout le temps si tu veux. Je termine donc avec Monsieur Zemmour. Parce que la grande question, évidemment, c'est de savoir si Monsieur Zemmour va avoir ses 500 parrainages. Vous savez que c'est le nombre qui est maintenant requis depuis déjà quelques années, pour valider une candidature à l'élection présidentielle. Et donc aujourd'hui, Monsieur Zemmour était sur Europe 1.
Ça change.
Il est en tant que candidat, tu sais qu'il n'est plus animateur polémiste.
C'est la radio d'extrême droite maintenant.
Pour l'instant, il dit qu'il en a 300, mais que quand même, il a du mal à trouver les autres parce qu'il y en a,
ils ont honte.
Ils peuvent pas le dire.
Assument
voilà.
Pas. Ils
ne le disent
pas
comme ça.
Non, mais c'est comme ça qu'il le dit.
Donc, il dit qu'en plus, il faudrait qu'on lui a appris. Après, quand on l'écoute, on a l'impression qu'il a découvert qu'en fait, il en fallait plus de 500 parce qu'il y a des gens, à un moment, ils enlèvent juste avant la fin. Donc, il fallait mieux en avoir un petit peu de secours au cas où et que du coup, il se fait du souci. Mais a priori, M. Mélenchon, Mme Le Pen se font aussi quelques soucis hein, quand même. Mme Le Pen, c'est à chaque fois pareil et puis finalement, elle les obtient.
Ouais,
alors, c'est, voilà.
Ouais, c'est presque du jeu politique à chaque fois aussi. Hein. On fait croire que personne, que le système est contre nous et donc on galère pour se présenter. Et en fait, ils les ont largement à chaque fois.
Alors, donc, M. Zemmour veut que ça soit secret, parce que comme ça, ça permettrait à des potentiels donateurs de ce parrainage de le faire en secret, comme ça. Mais là, c'est pas bien. Alors, juste qu'il faut se rappeler que avant, effectivement, c'était pas toujours donné, mais il y avait quand même une partie qui était révélée au journal officiel. Maintenant, c'est systématique, donc effectivement, il y en a qui sont un peu gênés hein, comme ça. Mais bon, les 500, ça date de 1976. Avant, on était à 100 parrainages. Donc effectivement, maintenant, il en faut un petit peu plus. Monsieur Zemmour, il a demandé à l'Association des maires de France, et en particulier son président David Lisnard, le maire de Cannes. Monsieur Zemmour dit de David Lisnard que c'est une personne remarquable, un démocrate. Là déjà, on sent le...
Il fait du lèche-botte.
Ah là là. Il y a un pool de signatures. Alors qu'est-ce que c'est ce pool de signatures de Monsieur Zemmour? Ça serait un espèce de truc, tu vois, dans lequel tu pourrais mettre des signatures de gens qui donnent leur parrainage, mais ils savent pas à qui. Et ce qui fait que toi, tu pourras aller les chercher.
Quand on a besoin.
Quand on a besoin.
Super.
Donc, et là, en fait, alors, c'est pas pour tout le monde, c'est pour des gens qui auraient été crédités de 5 à 8% dans les sondages. C'est-à-dire que déjà, des sondages qui servent à rien, qui sont parfois tronqués, qui sont différents d'un mois sur l'autre, d'une semaine sur l'autre.
Qui sont faits sur une quantité faible et peu représentative de la population.
Au fond, sur le, c'est assez spécifique hein, quand même, les élections. Ouais. Donc, c'est une idée un peu bizarre. Alors, du côté de l'AMF, David Lisnard, qui... lui aussi donne des salutations, puisqu'il a dit, il a salué la considération faite à son organisme. Là aussi, ça s'appelle du lèche-botte, on ne sait jamais, hein, si M. Zemmour y arrivait. Donc, lui, bah, il dit que, de toute façon, c'est pas à l'AMF de décider, donc il faut que ça repasse par l'État et le gouvernement et tout ça. Il y a un ressort législatif, hein, et que donc, c'est pas si simple. Mais qu'effectivement, peut-être qu'on pourrait revoir les choses à l'avenir, qu'il faudrait qu'il y ait des pistes qui soient étudiées pour que les candidats et les candidates à la présidentielle puissent obtenir des parrainages plus facilement. Reste que c'est quand même très marrant de la part de M. Zemmour de vouloir afficher aussi peu de transparence dès le départ, avant même d'être lancé dans l'élection elle-même. Voilà.
Ouais, on a bien compris qu'il aimait pas la transparence. Hein.
Allez, reprends.
Ah bah, c'était sympa ton coin élection. Je pense qu'on va avoir une année bien sympathique.
On va se marrer. Hein,
ouais, les élections, c'est toujours, en dehors du piège à con, c'est toujours super drôle, ou pas. On poursuit avec une micro-rubrique ni Dieu ni maître. Je ne suis pas arrivé à être inspiré aujourd'hui, parce que le Djokovic, le Kazakhstan, tout ça, le Covid, ça a un peu saturé mes neurones, qui ont fait un rejet de toute cette actualité qui ne m'intéressait pas. J'ai
alors,
quand même...
Si, quand même, sur le tennisman, on peut dire que ça nous a permis de remettre dans la presse le fait que c'est un nationaliste serbe qui aime les chamans et qui mange des trucs bizarres parce que du coup c'est ça qui lui donne la force et qui veut absolument gagner pour mettre en valeur son pays, la Serbie. Et que c'est quand même voilà. Et donc c'est toujours bien d'avoir un petit peu des retours comme ça par le sport bon, qui sont les gens et les sportifs.
Je vais aller voir du côté d'Emmanuel Macron, moi plutôt, dans cette rubrique ni deux ni maître, qui a rencontré hier les autorités religieuses. Les autorités religieuses, c'est les représentants des cultes. Alors il y a les cathos, les protestants, les orthodoxes, les juifs, les bouddhistes et les musulmans. A priori, il n'y a que eux qui sont là. Hein, les autres religions sont pas assez grosses hein, pour être représentées. Du coup, voilà, il était accompagné de Jean Castex, le Premier ministre, et du ministre de l'Intérieur, qui est aussi officiellement le ministre des pratiques irrationnelles. Hein, le terme officiel, c'est des cultes. Monsieur Gérard Darmanin, Gérald plutôt, on peut l'appeler Gérard, hein, mais c'est Gérald. Donc, il a fait de la propagande, quelque chose d'assez inadmissible dans un régime sur lequel il y a une séparation officielle, je cite le terme hein, de l'époque de l'Église et de l'État, hein, donc de la religion et de l'État en termes modernes. Ça, il s'assoit dessus, Macron, il en a rien à faire de l'histoire de la République. Il a le droit, nous on ne respecte pas plus que ça la République, mais enfin, bon, venant d'un chef de l'État, c'est quand même un poil nauséabond.
Donc il a rappelé, ouais, il y a plein d'actes anti-religieux, 1400 l'année dernière, c'est un peu moins pire qu'avant, 17% de moins, mais voilà, on fait attention, on est avec vous, on va vous soutenir, vous, les croyants, les religions, les religieux, les sectes, tout ça, enfin, tous les trucs, quoi, qui sortent du domaine de la rationalité, et qui sortent du domaine de ce qui devrait être celui du chef de l'État d'une république, et notamment de la République française, qui a des règles quand même un poil carré, hein, sur ses religions et sur ses sectes. Mais il les oublie. Voilà. Par contre, il a rien parlé d'autre. C'est-à-dire que quand les religions soutiennent des discours ou tiennent des discours anti-rationalistes, anti-science, anti-non-croyants, anti-athées, anti-rationalistes, tout ça. Non, c'est pas grave, on n'en parle pas. D'ailleurs, on n'en parle pas parce qu'ils font exprès de ne pas compter. Chaque fois qu'un religieux tient un propos, donc on peut appeler ça du racisme ou de la haine des autres, c'est-à-dire la haine des non-croyants, des homos, c'est pas comptabilisé en fait, alors que chaque acte anti-religieux, c'est-à-dire tu dis je déteste telle religion, ça va être comptabilisé. Il y a une inégalité de traitement, bon ça on s'y attendait, hein, dans un régime qui devient de plus en plus sympa avec les religions, ce qui est assez incroyable. Donc voilà, il a et alors il va plus loin parce qu'il dans l'hypocrisie, je pense qu'il est champion du monde. Hein. Enfin, quoique les autres sont pas mal aussi, tu vas me dire, ses concurrents. Il a souligné qu'il était, je cite, vigilant face à tout ce qui pouvait être discours de haine. Donc là, c'est plutôt des gens qui, comme nous, dirions, ouais, bah, enfin, l'association de pédophiles et de violeurs, là, on va peut-être en faire quelque chose. Eh ben non, ça, c'est un discours de haine. Alors que c'est une constatation, une réalité, hein. Mais ça, c'est un discours de haine. Par contre, quand un prêtre, un imam, dit que les homosexuels, c'est une erreur de la nature, ah ben non, c'est pas grave, ça. Faut pas le dire, c'est mal, mais c'est pas grave. Voilà, on en est là. Hein. On a une énorme dissonance là entre la réalité juridique notamment et le discours porteur de haine qui est bien plus présent dans les religions que dans les qu'à l'extérieur des religions. Il suffit de lire n'importe quel texte religieux pour se comprendre tout ça. Alors il va jusqu'au bout, hein, de son hypocrisie parce que il remet pas en cause tout ce qui porte ces gens. Hein. Donc le discours anti-homo, le discours qui promeut la différence homme-femme. Hein, je veux dire, c'est pas vous prenez n'importe quel texte religieux de ces religions ou de ces sectes, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a un discours anti-homo, un discours anti-rationaliste, un discours qui prône l'inégalité homme-femme. Hein, je vous laisse chercher dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tout ce. Enfin, voilà, tous ces textes religieux horribles. Donc voilà. Et alors, il est allé plus loin dans l'hypocrisie. Il a dit encore, je remercie l'Église catholique d'avoir commandé le rapport CIAS. Je vous rappelle, c'est le rapport de la commission. CIAS, ça veut dire Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, à partir de dans les années 50. Et quand je continue, je cite, « Et pour les décisions prises par les évêques en faveur des victimes. » Alors les décisions, c'est de donner un peu de thunes. Hein. Il n'y a rien d'autre. Donc il n'a rien demandé d'autre, c'est-à-dire l'Église catholique qui a protégé 3000 pédophiles, criminels pédophiles, rien. Il ne propose pas de loi pour que cette entreprise criminelle soit sanctionnée, rien. Et pourtant les hiérarchies ont sanctionné, ont protégé, etc. Donc c'est assez incroyable, hein, oui c'est bien, donc... Quelque part, il valide, en fait, le truc, c'est que il y a eu un crime sexuel, il y en a eu 3000, enfin, il y a eu, pas 3000, c'est 3000 prêtres pédophiles, mais en fait, c'est en centaines de milliers de crimes sexuels qui ont été commis par des membres de l'Église catholique. Lui, il dit, vous avez fait un rapport, ça suffit, c'est bien. Voilà. Voilà la vision du respect de l'être humain. Vous violez, si vous êtes religieux, vous faites un rapport et ça ira pas plus loin. Il a validé ce truc-là. Je trouve ça très... C'est le sommet même de l'horreur. Emmanuel Macron, qu'on avait cru pas trop attaché aux religions, au tout début, et on s'était fourvoyé, finalement, il est comme les autres. Il cherche à rameuter tout le monde pour se faire élire. C'est le principe, hein, de cette élection présidentielle où on fait du racolage. Et donc, il racole le plus large possible, quitte à racoler chez une entreprise criminelle. Donc, qui est l'Église catholique. Hein. En France, à part la mafia, je ne connais pas d'entreprise qui a eu en son sein 3000 criminels. Ce qui est quand même pas mal. Enfin, à part dans des périodes obscures de l'histoire française, comme voilà, l'État français a été quand même, dans ce cas-là, entre 39 et 45. Question subsidiaire, justement. Peut-on donner la Légion d'honneur à une personne responsable et membre d'une organisation comme l'Église catholique, donc qui a protégé des pédophiles ? Réponse de Macron et de Darmanin, oui, ce 2 janvier. Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles, 63 ans, a été nommé chevalier au titre du ministère de l'Intérieur et du ministère des Cultes. Voilà, Légion d'honneur pour quelqu'un qui appartient à une organisation qui a protégé des pédophiles. Lui, il n'a peut-être pas protégé les pédophiles, mais il fait partie de l'organisation et de la gestion de tout ça. C'est triste quand même. Alors dans ma deuxième partie, un peu courte, hein, sur le Dieu et la science, c'est la suite de ce que tu nous avais fait la dernière fois, avec un bouquin absolument horrible. J'ai relu pas mal de choses. Alors, il faut savoir que que les religieux, les croyants essayent de récupérer la science, c'est pas nouveau. Il y a eu des distances mises de force, parce que la science étant rationnelle, les religions étant irrationnelles, c'est incompatible par essence. Mais les religieux essayent des fois de faire de la récup, hein. Ce qui ne plaît pas toujours, hein, parce que forcément c'est peu crédible. Donc on a, alors par exemple, dans les pays musulmans, on se rappelle, hein, il y a eu un moment où la science était très très forte, très très présente, hein. Ils ont été moteurs en maths juste après les Grecs. En fait, c'est la deuxième civilisation qui a beaucoup permis d'avancer en maths, hein. On rappelle, les algorithmes qui sont à la base de l'informatique sont issus de réflexions mathématiques de quelqu'un qui était basé en Irak. Je vous prononce pas son nom arabe parce que j'y arrive pas, et chaque fois que je le fais, j'ai l'air ridicule. Mais voilà, il y a eu un moment où l'islam était peut-être moins fort. Ces chercheurs ont pu exister, ces mathématiciens, ces scientifiques. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et c'est très problématique. Alors là, on parle peut-être des pays arabes. On a par exemple Fawzia Sharfi, qui dit, je cite, « Ne pas laisser les religieux assurer que Dieu et la science iraient ensemble ». Elle a ce discours, donc ça date d'hier. Fawzia Sharfi, c'est une physicienne, donc une chercheuse, une rationaliste, une scientifique tunisienne. Et elle est au cœur de ça aussi en Tunisie, parce que aussi en Tunisie, les religieux essayent de croire qu'on peut mélanger les deux. Avec le même discours révisionniste et faux qu'on a dans le livre dont tu as parlé la dernière fois, dont j'ai perdu le nom, mais ça, Dieu, la science, les preuves. Cette escroquerie scientifique, et ben voilà, ça a un impact jusque en Tunisie. Et donc, là, on est au Maghreb. Dans le Maghreb, il y a aussi des scientifiques. Et les scientifiques essayent aussi de faire entendre leur voix rationaliste. Alors, c'est bien plus dur qu'ici, hein, forcément. Mais ils essayent. Et elle, ben voilà, Fawzia Sharfi m'a redonné du baume au cœur. Je lui dis, voilà, elle y va, elle est physicienne, et elle défend la science et le rationalisme, et ça fait plaisir. Et, du coup, en parallèle de tout ça, je suis retombé sur un article suite à la mort de Igor et Grishka Bogdanov, les célèbres jumeaux défigurés qui ont bercé l'adolescence de garçons et de filles, avec notamment cette émission mythique, hein, qui s'appelait Temps X, qui était vraiment très très bien, hein, pour celles et ceux qui ont vécu cette époque-là. Ils sont aussi connus pour toutes les arnaques, hein, ils étaient en procès, ils allaient en prendre plein la gueule, mais ils sont morts avant. Les multiples tricheries scientifiques, voilà, ils sont assis sur la science il y a un moment, en fait. Et en fait, on apprend donc ces anti-vax, hein, ils étaient anti-vaccins. Alors eux, ils croyaient que les vaccins étaient inefficaces sur le Covid. Bon, bah la preuve, hein, ils en sont morts. Donc effectivement, ils n'auraient peut-être pas dû croire, mais plutôt être rationnels et lire les études. Mais ils ont basculé il y a très longtemps dans la croyance et dans l'attrait de l'argent, parce qu'en fait, finalement, le seul truc qui était devenu important pour eux, et c'est pour ça qu'ils étaient poursuivis en justice, parce qu'ils avaient arnaqué personnes un petit peu fragiles mais riches. Et on apprend qu'en fait, ils avaient un projet de livre qu'ils allaient faire, qui reprenait un livre, la suite en fait d'un livre qu'ils avaient écrit, qui était horrible. Je me rappelle avoir lu des extraits à l'époque, qui s'appelait « Dieu et la science ». Eh oui, déjà, c'est un peu l'ancêtre du livre « Dieu, la science, l'épreuve ». Là, c'était extravagant, les démonstrations. Alors, ils sont très forts pour mettre des mots scientifiques qui veulent rien dire. Voilà, bon, ils ont tout un vocabulaire pseudo-scientifique qui fonctionne pas mal et qui entoure loupe. Voilà, c'est le but, hein, c'est de faire croire à des trucs qui sont pas du tout scientifiques et rationnels. Et Donc c'est notamment Damien Nougared qui le dit, c'est leur agent, donc c'est lui qui leur faisait gagner de l'argent. Il leur a dit, il raconte, il y avait un projet, ça s'appelait Dieu et la science, tome 2, donc le fils de la vengeance du retour, et ils avaient prévu un rendez-vous avec le pape, parce qu'en fait ils devaient le faire un peu avec le pape. Enfin, c'est ce qu'il raconte maintenant, parce que je pense que le livre est déjà pas mal écrit, ils vont le finir et ils vont essayer de le sortir pour gagner de l'argent sur le dos des deux affreux bonhommes. Hein, je pense que c'est ça, enfin, je le perçois comme ça. Et donc, j'ai appris, et c'est là ce qui m'a fait rire, j'ai eu envie d'en parler, que, en fait, c'est Monsieur Bolloré, alors pas le patron d'extrême droite de Canal, mais Michel-Yves Bolloré, un des co-auteurs de Dieu, la science et les preuves, dont tu avais bien cassé le livre là, il y a 15 jours, quand on a fait la dernière émission, et bien en fait, les frères Bogdanov ont fait un débat, ils ont fait une conférence avec lui pour parler de ce livre et du fait que Dieu existe et que la science amène des preuves de ça. Voilà, c'était juste pour... Ça m'a fait marrer que ça revienne et que eux aussi, ils sont allés jusqu'au bout de leur démarche de casser l'image de la science, de détruire la science dans ce cas-là d'assez incroyable, c'est-à-dire une construction rationnelle avec des remises en cause en permanence, mais intelligente. Voilà, ils ont essayé de détruire tout ça. Heureusement, ce ne sont que deux petits bonhommes et la science s'en sortira quand même, mais ils ont quand même essayé.
Alors on va continuer avec la science, mais on va plutôt parler de start-up dans le médical. Vous vous souvenez de Theranos, ça vous parle dans votre petite tête?
C'est la boîte américaine où elle avait retiré plein d'argent, ouais.
Alors, je vais vous la refaire en entier. Theranos, boîte des États-Unis d'Amérique, start-up montante, comme on dit, créée par Elizabeth Holmes quand elle avait seulement 19 ans, un âge qui a fasciné les États-Unis d'Amérique, mais pas seulement, hein, aussi les Européens de ce côté de l'Atlantique. Elle était jeune, pas une héritière, donc elle avait aussi une personnalité qui intéressait aux États-Unis d'Amérique, parce qu'elle s'était fait elle-même, hein, vous savez, voilà.
C'était aussi une femme, et ce qui est assez rare dans ce milieu-là, du coup, tout le monde s'est jeté un peu sur elle aussi pour cette raison-là.
Il faut dire qu'elle présentait bien, elle présente toujours bien d'ailleurs, hein, c'est pas la question, on peut vieillir et continuer à bien présenter. En tout cas, elle est arrivée aussi avec une belle histoire. Je vais créer une start-up pour vous proposer un produit parce que mon tonton, il est mort du cancer et que si on avait eu une belle technologie que je vais vous vendre, ça sauverait plein de gens. Et donc avec une belle histoire, mais je veux dire, moi j'avais envie qu'elle réussisse. Hein.
Oui,
vous avez vu, je vous ai déjà raconté la fin, pour l'instant elle n'a pas réussi. C'était une belle histoire, donc elle crée Theranos, c'était quoi l'idée? C'était de nous vendre des machines, avec une goutte de sang, on allait pouvoir savoir quelle maladie tu allais, analyser tout de suite, cancer, VIH, le Covid, ça aurait été magnifique. Voilà, tout un tas de maladies qu'elle aurait pu, grâce à ces machines extrêmement rapides, qui aurait permis à plein de gens, aux particuliers aux États-Unis d'Amérique, qui ont peu de moyens, de pouvoir savoir s'il y avait une maladie ou pas, rapidement, pas cher, efficace, tout ça, tout ça.
Et ça a été crédible, parce qu'en fait, il y a déjà pas mal de recherches là-dessus. Il y a des gens qui ont trouvé, effectivement, quand on trouve tel élément dans le sang, ça veut dire qu'il y a déjà quelque part un cancer de tel truc. Ça, c'est vraiment un truc qui va arriver un jour, parce qu'on n'en est pas loin. On a déjà pas mal de bonnes nouvelles là-dessus. Et un jour, effectivement, on pourra faire une prise de sang et donner pas mal d'indications sur des cancers, des tumeurs qui sont pas encore détectables autrement. Mais elle, c'était pas au point en fait du tout.
Alors
encore.
C'est vrai que pendant les 3 mois de son procès qui s'est tenu à San José, dans la Silicon Valley, on a pu s'apercevoir qu'effectivement, elle l'a dit, ça va arriver. Le problème, chère Elisabeth, c'est que c'est pas Theranos qui allait proposer cette machine-là tout de suite maintenant, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des tas d'investisseurs, et pas forcément des investisseurs de la Silicon Valley d'ailleurs, des investisseurs habitués à mettre de l'argent dans des start-up de tout genre, qui sont arrivés, qui ont mis des centaines de millions de dollars dans une entreprise qui était présentée comme étant la prochaine Apple, Google, enfin vous voyez, le genre
Tesla,
ça va.
Tesla, voilà, les trucs qui explosent quoi. Ouais.
Exactement.
Une licorne, voilà, un truc qui va devenir.
Ah, une vraie, voilà. Et le truc, énorme. C'est que le Wall Street Journal en 2015, alors c'est une affaire qui date des années 2010, hein, ça commence à dater, sort un papier et explique que tout ça c'est de l'arnaque, c'est du mensonge, les machines ne fonctionnent pas, elles ne sont pas prêtes de fonctionner. Donc. Procès, et cette semaine, le 3 janvier, elle a été condamnée, Elizabeth Holmes, pour fraude et escroquerie par un tribunal, donc en Californie. Après ces 3 mois de procès, ça a été très suivi aux États-Unis d'Amérique, parce que quand on commence à demander à des investisseurs de mettre du pognon et qu'il y a de l'escroquerie et du mensonge, bah c'est très médiatisé, forcément. Il faut dire que même ici, hein, en France, il y avait eu vraiment des artistes extrêmement élogieux hein, sur Elizabeth Holmes et sur Theranos. Sauf que, bah, du coup, elle a menti, elle s'est fait pincer et tout ça, bah, ça tape un petit peu. Alors, il faut savoir que c'est, comme nous le rappellent plusieurs journaux, dont Libération cette semaine, c'est un peu une habitude de présenter des choses qui n'existaient pas encore tout à fait. Hein, mais il y a une différence, effectivement, entre « ça va venir » et mentir dès le départ. Ouais, on vous rappelle, il hein, y a des camions, des machins, il y a tas de trucs, hein, on en avait parlé déjà dans cette émission.
Le camion électrique, là. Oui, mais alors, en fait, c'est le principe des start-up. On a une idée, on propose déjà des choses autour, mais c'est pas encore existant, il faut financer ces start-up, ces entreprises qui vont grossir et qui vont mettre au point le truc annoncé. Le truc, c'est qu'elle a pas fait que des promesses, elle a amené des fausses preuves, elle a triché tout le long, elle a piqué des données à d'autres entreprises, enfin, elle a fait tout pour arnaquer, en fait.
Alors, Libération nous rappelle que ça s'appelle le fait de présenter quelque chose qui n'existe pas encore mais qui est en devenir, le fake it until you make it, ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, et nous rappelle que Steve Jobs a présenté le premier iPhone, il marchait pas.
Ouais, mais c'est tout le monde
Bill Gates
ça. Ouais.
A remporté un appel d'offres pour fournir un système d'exploitation IBM. Il l'avait pas.
Ouais.
Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, voilà, le truc, c'est qu'après, ces gens ont quand même réussi à nous fourguer. On en est, je sais pas combien d'iPhone maintenant. Le numéro 2448, non? Un truc comme ça.
À des trucs qui fonctionnent après.
Voilà. Bon, elle a menti assez clairement. C'est pour ça que là, on parle de fraude et d'escroquerie. C'est pas juste qu'à un moment, elle s'est foirée et qu'elle a dilapidé l'argent de ses investisseurs avec une grosse faillite.
Oui, parce
c'est qu'elle a menti.
En fait, dans les autres exemples que tu cites, les entrepreneurs, leurs chercheurs et tout ça, ils y croient vraiment. Ils se disent, on va y arriver, on n'est pas loin, on a. Alors que elle, quand elle se rend compte que c'est pas possible, elle continue le discours pour récupérer de la thune, en fait.
Mais tu parlais justement
arnaque, du
principe des licornes. C'est-à-dire qu'on a aussi un système capitaliste qui a un tout petit peu changé, quand même, c'est depuis le début des années 2000. C'est qu'on a une multiplication des startups, et puis une course à l'investissement, et puis beaucoup d'argent qui sont mis d'un coup. C'est des sommes parfois énormes qui sont mises dans ces entreprises avec un futur espéré, parce que l'idée, ça va être de gagner de l'argent pour ceux et celles qui ont tout de suite investi, et puis d'avoir la bonne idée, d'avoir la bonne entreprise qui demain va pouvoir sortir le produit qui va durer pendant des décennies et faire du pognon. Donc il y a une course, et c'est vrai qu'il y a des sommes absolument hallucinantes et affolantes qui sont mises sur la table pour ces licornes. Hein, on en avait parlé il y a quelques temps de ces licornes aussi à la française qui récupèrent beaucoup d'argent. Alors ça sonne absolument pas le glas du tout de ce terme, de ce type de financement.
Non, le capital risque comme ça, il y a de tels gains si ça marche.
C'est phénoménal.
Les capitalistes sont toujours dessus, ouais.
Par contre, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs fois maintenant qu'il y a des gens qui se font passer avec des produits qui ne marchent pas. Et les investisseurs, ben,
ils vont
y a un moment, voilà. Et puis, je vais faire rapide pour que tu puisses quand même ensuite terminer.
Parle-nous bœuf un peu.
Ouais, alors, je vais commencer avec le truc drôle. J'aime bien quand, vous savez, vous avez les France Bleu au niveau local qui nous racontent des trucs marrants. La gendarmerie. Alors, on nous explique que c'est le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Avignon qui a mené des opérations à Sorgues. Et ils ont trouvé des petits sachets.
Haribo.
Haribo. Donc, moi, je pense que là, il y a quand même une imagination débordante de la part de commerciaux. Certes, qui nous vendent des produits absolument illégaux, hein, je veux dire, voilà. Mais quand même, donc, il y a des petits sachets Haribo. Mais comme un petit sachet de tout à les petits formats à Haribo. De la marque, donc, de bonbons extrêmement connus. À l'intérieur, c'était donc du cannabis. Et c'était écrit, parce qu'en plus, il y a du slogan quand même, hein, c'était écrit Haribo, c'est beau la vie, il y a de la weed et il y a du toshi. Donc, ça s'est passé mardi. Ils se sont fait pincer. Bon, il y avait de l'argent, évidemment, de la cocaïne et d'autres drogues. Hein, voilà. Alors, ça a fait réagir du côté d'Haribo.
Ils étaient pas contents.
Ah, bah alors, Jean-Noël Michel, que je ne connaissais pas, c'est le directeur marketing d'Haribo, a donc répondu aux interviews. Il a répondu d'abord : si je regarde ça d'un œil marketing, c'est quand même un joli signe de la notoriété de la marque et de son attractivité, y compris pour des cibles jeunes.
Il a raison.
C'est ce qui donc il a répondu à France Bleu Gare-Lozère. Mais bon, poursuit-il. Si, mais bon. Je me réjouis deux minutes et ça s'arrête là, puisque évidemment, on ne peut pas cautionner l'utilisation de notre notoriété pour ce genre de produit prohibé et nocif, donc on le condamne vivement.
C'est vrai que le sucre, c'est pas nocif non plus. C'est pas addictif non plus. Pardon.
Il continue. On est là pour donner du plaisir gustatif aux petits et aux grands, et sûrement pas pour servir de faire-valoir pour ce genre de produit.
Oui.
Donc il dit que si jamais ils arrivent à identifier la personne à l'origine de ce détournement, bah, il va mener une action en justice. Bon, ça c'était pour la blagounette.
Ouais,
non, et puis pour dire qu'il y a le jour où il y a une légalisation du haschich, le cannabis, de la beuh. Il y a un pouvoir de communication absolument énorme. Moi, je dis, il y a des communicants. Ouais. Putain, franchement, c'est pas aussi bien des fois pour vendre des baskets. Alors, à côté de ça, il y a tout le marché du CBD en France qui se fait grave du souci, puisque vous l'avez appris, la vente des fleurs seules ou en mélange aux consommateurs est interdite. C'était une demande de la flicaille en France de faire interdire la vente de ces fleurs, parce qu'apparemment, c'était compliqué d'arriver à savoir si c'était du CBD.
Ouais, en fait,
ou de la fume.
Voilà. En gros, les flics français ne savent pas, ne savent pas voir, enfin mesurer si dedans il y a du THC ou pas.
Je veux bien croire.
Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'à 2 heures d'ici, il y a un pays qui s'appelle la Suisse. Les flics suisses, eux, ils savent. Ils ont un petit appareil qui leur permet de vérifier si la tête, elle est légal, c'est-à-dire avec des très faibles taux de THC, ou si c'est de la beuh avec plein de THC. Et ben, les flics français, non, ils ne savent pas faire. Et comme quoi, la compétence des flics suisses est bien, bien supérieure aux flics français.
Donc, dans cet arrêté publié le 31 décembre au journal officiel, il y a cette interdiction, et puis parallèlement, une ouverture de l'utilisation industrielle des parties du chanvre. Oh, ouais. Donc ça se met un petit peu en quinconce.
Alors ça devrait peut-être pas rester longtemps, hein, cette interdiction, parce que il y a une loi européenne qui autorise la commercialisation. Donc du coup ils sont en porte-à-faux là.
Ouais, alors c'est l'intérêt quand même de cet arrêté, c'est que ça enlève le flou justement qu'il y avait en France, où la France se faisait taper sur les doigts pour pas respecter une position de l'Union européenne sur la possibilité de vendre ces produits CBD. Donc là, du coup l'arrêté officialise les possibilités de vente, que ce soit dans les gélules, les trucs liquides, les bonbons, les sucettes, les machins, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais il faut savoir qu'en France, il y a un développement des boutiques qui vous vendent de ces produits. C'est absolument stupéfiant. C'est-à-dire qu'on est à près de 2000, d'après le syndicat, parce qu'il y a déjà un syndicat professionnel du chanvre qui travaille fortement sur ces questions. Il y a un marché, un volume d'affaires de marché, je vais y arriver, à 2 milliards d'euros, donc c'est absolument énorme. Il y a plein de gens, je suis sûr, autour de vous qui se sont mis au CBD. Il y a pour l'instant peu d'études
qui
amènent des certitudes sur l'efficacité. Ça n'empêche pas qu'il semblerait qu'il y ait quand même des effets placebo extrêmement importants et que dans certaines situations, ça peut marcher. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la beuh, ça par contre, c'est utilisé dans des maladies, même avec des enfants, et que ça marche extrêmement bien sur certaines pathologies.
Il y a des essais cliniques et sur le THC ou sur les fleurs complètes, etc., qui montrent qu'effectivement ça a un impact sur pas mal de domaines, avec des effets secondaires, et notamment l'effet secondaire principal, c'est que c'est une drogue. Voilà.
Ouais, mais simplement, tu vois, il y a des gens qui ont travaillé justement à isoler des molécules à l'intérieur pour ne garder que la bonne partie pour des traitements médicaments.
Ouais. Sauf que le THC a toujours cette fonction-là et elle a aussi.
Toujours est-il que, c'est vrai que, mais c'est du coup un marché qui est vraiment en pleine explosion. Et du coup, la filière s'inquiète parce que la fleur, moi je ne le savais pas, mais c'est souvent utilisé par les consommateurs et les consommatrices. Je pensais que peut-être que les gens achetaient des gélules parce que c'était plus facile comme un complément alimentaire.
Ou des gouttes,
effectivement. Quoi qu'il paraît que les gouttes, c'est quand même assez dégueu, donc ça peut être un peu délicat pour les gens à prendre. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé que les gens c'était le produit prioritaire. Pourtant, ça représente 50 et 70% du chiffre d'affaires dans les boutiques spécialisées. Donc, c'est très important. Donc, il y a un manque à gagner et tout le monde s'inquiète. Et puis, il y avait une autre histoire aussi, c'est d'où est-ce que ça vient ce produit, et qu'il y avait une filière française de production qui voulait se mettre en place, et qu'avec cette interdiction, on est en train de tuer une production française. C'est-à-dire que finalement, on va permettre à d'autres de produire ça, parce que même si ça revient demain sur le marché, les fleurs, elles seront produites ailleurs.
Et c'est là où on sait que Emmanuel Macron n'est pas un libéral, mais est un réactionnaire, puisque un libéral aurait autorisé la vente de ce genre de choses, alors qu'un réactionnaire est contre ces drogues qui ne sont pas des drogues françaises.
Et puis il y a une obligation dans cet arrêté, une obligation d'avoir un contrat écrit avec un transformateur ou un extracteur comme préalable de la mise en culture. Et donc pour la filière, c'est aussi assez bizarre, parce que on régule quelque chose qui n'aurait pas à l'être. Et puis on fait finalement encore une fois une place prépondérante aux groupes qui vont avoir de l'argent et qui vont pouvoir s'installer sur c'est pour l'instant ce qui reste malgré une friche mais qui est en plein développement, hein. Le flou juridique, c'est bien, parce que ça permet à des gens de pouvoir travailler, parce qu'il y avait des boutiques qui étaient embêtées. Il y avait des boutiques, elles avaient des soucis, par exemple, pour ouvrir un compte en banque. Parce qu'il y avait des banques qui trouvaient qu'il y avait quand même un truc.
Ils étaient à la limite, ouais.
Voilà, il est à la limite. Donc, ça permet quand même à ces boutiques de pouvoir s'installer tranquillement. Peut-être aussi à des gens de produire un peu plus tranquillement. Mais c'est vrai que on pourrait aussi critiquer le fait qu'au lieu d'avoir un produit avec une fleur, on est obligé de passer par la transformation.
Ouais.
Et que ça, c'est peut-être naze, parce que le consommateur, la consommatrice, c'est peut-être pas ce qu'elle a envie de faire. Donc, je sais pas comment ça va se passer dans les mois qui viennent. Est-ce que l'Union européenne va intervenir? Est-ce que le syndicat, qui est quand même assez fort du chanvre, parce que il y a pas que le CBD dans le syndicat du chanvre, il y a aussi des exploitants de la plante.
C'est une plante qui a des qualités incroyables.
Ah, c'est incroyable. Ouais.
Et qu'on devrait redévelopper. Aujourd'hui, on s'habille avec du coton. Le coton, il est fabriqué et il pousse à l'autre bout du monde avec des produits chimiques de dingue.
Mais
on
c'est
pourrait refaire de l'habillement avec du chanvre et ça serait local, voire sans pesticides. Ici des trucs de synthèse. Non, mais il y a un vrai potentiel. Et ce sont les réactionnaires qui ont des problèmes avec le cannabis qui ont fait disparaître toute cette culture de la plante, toute cette culture du chanvre qui était très forte.
Alors, on a quand même un petit espoir, c'est que la France est le premier producteur de chanvre en Europe. Il y a 2000 producteurs. Donc, ça veut dire que ce texte aussi donne une ouverture d'utilisation plus large de la plante, ce qui veut dire que on va déjà moins gaspiller déjà sur un produit qui est extrêmement intéressant. Et puis, il y aura plus de choses, puisqu'avant, il y avait la fibre, les graines. Là, maintenant, effectivement, on peut aussi utiliser les fleurs et les feuilles pour de la production sur le chanvre. Donc là, c'est extrêmement intéressant. Et puis, comme je disais, c'est le premier producteur en Europe, donc c'est pas inintéressant économiquement aussi d'avoir une culture de ce type. Ça permet aussi de faire un peu du local. Et comme tu le disais, d'avoir par exemple une production textile différente, mais on sait aussi que ça participe à l'alimentation des animaux. Il y a plein de petites choses dans le champ.
C'est
absolument, ça peut être aussi les moquettes, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, il y a des recours qui sont mis en place par le syndicat. C'est ce que je vous disais, on va voir si dans les mois à venir, il y a des choses qui peuvent évoluer sur cette question. Mais en tout cas, il y a déjà une réaction des producteurs et productrices de CBD, des vendeurs surtout, et des vendeuses, des boutiques en France de CBD contre cet arrêté qui limite leur activité. Quoi qu'on en pense, ça vient quand même à la base d'une demande un peu pourrie. Ouais.
Et on parle même pas de légaliser le cannabis avec du THC. Hein, non, mais la France est un pays quand même qui est un poil réactionnaire.
Et on continue avec les flics.
Allez, une petite info finale. Ça s'est passé le 26 avril 2020. Vers 1h30 du matin, des policiers ont interpellé à l'île Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, un Égyptien de 29 ans qu'ils ont soupçonné de vol de matériel sur un chantier. Et donc, quand ils essaient de l'interpréter, ils essayent de s'enfuir, le pauvre Égyptien. Il saute dans la Seine et s'ensuit des... Alors, il le récupère, je vais vous expliquer comment. Après, insultes, humiliations... voire plus. Moi je l'aurais qualifié de beaucoup plus d'incitation au meurtre, mais c'est pas allé jusque là malheureusement. Donc quand un flic sort ou plusieurs policiers sortent le jeune homme du fleuve qui le récupère, il y en a un qui dit: un bico comme ça, ça nage pas. Ça part bien là, on sent bien le racisme. La vidéo est filmée par un riverain et sera diffusée par un journaliste, Tahab Ouaf, sur les réseaux sociaux. C'est grâce à ça qu'il y aura une action de la justice. Ensuite il y en a un qui dit: ah, ça coule, tu aurais dû lui accrocher un boulet au pied. C'est là où je dis, c'est pas de l'insulte ça, c'est pas du racisme, ça va au-delà. C'est, on veut le tuer, tu aurais dû le tuer. En fait, c'est ça qu'il dit le gars, le flic. Et ça va très très loin. Bon, on peut entendre ça sur la vidéo. Alors aujourd'hui, le tribunal de Bobigny a jugé l'affaire. Il a condamné donc 6 policiers, ils étaient 6. Au moins, à des peines allant de 6 à 12 mois de prison, dont 6 fermes pour celui qui a dit un bico, ça nage pas. Donc voilà. Alors, le truc, c'est léger quand même. Le parquet, le parquet de Bobigny a partenu les violences,
Il y a eu quand même, a priori, un poil de violence. Il a juste retenu les insultes. Et moi, je serais allé beaucoup plus loin, parce que franchement, un bougnoul, non, il a pas dit bougnoul, il a dit quoi? Un bico, ça coule, tu aurais dû lui accrocher un boulet au pied. Moi, le gars, il est plus flic et il passe en jugement direct et il y a un truc qui fonctionne pas bien. Il y a une tolérance incroyable dans ce racisme, voire cette incitation au meurtre portée par la police. Alors, la justice n'a pas voulu reconnaître tout ça. Elle a juste reconnu les insultes racistes, ce qui est déjà pas mal quand on connaît notre justice, vous me direz. Mais c'est quand même toujours un poil frustrant. J'ai pas suivi s'il était encore flic ou pas. Je crois bien, mais ça fait peur s'ils continuent le même métier, parce qu'ils vont continuer. Ils vont pas devenir non racistes. Hein. Donc voilà, c'est une affaire. Alors Samir El Jandi, j'espère que je prononce pas trop mal. Donc est ce fameux Égyptien de 29 ans. Il est sorti, il était content, il a dit je suis heureux, la justice a été faite, j'ai été lésé, j'ai été agressé, mais la justice a reconnu que j'étais une victime. Surtout que les faits sur le vol ont été classés sans suite. En fait, il y avait rien contre lui. Hein. Donc voilà, du coup l'info est positive parce que lui il dit bah si finalement ils ont quand même été condamnés, ça me fait plaisir, je me sens lavé, bon bah très bien. Mais moi j'aurais été quand même un poil beaucoup plus sévère sur ces gens racistes et voire plus. Voilà, c'était ma dernière info.
Eh ben, on va s'arrêter là. On peut juste vous dire qu'il reste toujours deux très beaux films iraniens au cinéma sur Lyon, comme maintenant vous pouvez plus aller au concert quand il y a des gros trucs.
Truc debout.
Bah, aller au cinéma. C'est Le Diable n'existe pas, qui est déjà sorti il y a très très longtemps, mais qui
joue encore
ses dernières heures de gloire dans les cinémas lyonnais.
Un beau succès. Hein.
Un film de Mohammad Rasoulof. Donc ça se passe en Iran. C'est une succession de portraits.
Quatre.
D'hommes.
De bourreaux.
Et de femmes qui ont un lien avec la peine de mort en Iran. Donc on a ce conscrit obligé de participer, lui.
Qui doit devenir bourreau, ouais. On l'oblige
bourreau.
À devenir bourreau.
On a
ce père de famille qui fait ça pour gagner sa vie et qu'il vit très très mal.
Et puis à chaque fois on a une histoire qui nous rappelle qu'en Iran la peine de mort elle est partout. Elle touche tout le monde. Elle va toucher les opposants et les opposantes. Elle va toucher les familles de ceux et celles qui ont été visés par la peine de mort. Et elle intervient très rapidement en Iran. Et puis surtout, bah oui, il y a des hommes qui sont obligés de devenir des bourreaux ou qui en font un travail du quotidien. Mais en tout cas, il y a cette une présence qui est au quotidien en Iran, dans les familles, auprès des hommes et des femmes. Et c'est pas simplement quelque chose qui est à l'écart de la vie, mais tout le monde supporte cet assassinat d'État. C'est une très belle démonstration de l'horreur de ce que c'est la peine de mort, surtout dans un pays qui t'oblige à y participer. Ouais.
Donc les quatre histoires sont incroyablement intéressantes. Les comédiens et les comédiennes sont incroyables et les images sont fabuleuses. Hein, c'est tout est parfait dans ce film.
Ne vous laissez pas impressionner par les 2h32 du film.
Ouais, ça passe tout seul.
Ça passe avec douleur.
Ouais.
Non, mais il faut le dire, c'est un sujet difficile, mais le film est très beau. Et puis, on vous conseille aussi, dans ces dernières heures aussi de gloire, un héros de Asghar Farhadi. Là, on est aussi sur quelque chose qui est extrêmement présent en Iran. C'est le principe de la dette, qui tout de suite peut être amené aussi dans les fabuleuses prisons iraniennes. Tout ça parce que un voisin à qui tu dois des sous va demander à ce que tu sois emprisonné
parce que tu n'arrives pas à rembourser.
T'arrives pas à rembourser. Et c'est ce qui arrive à Rahim, qui est en prison à cause d'une dette qu'il n'a pas pu rembourser pour un proche. Hein, c'est pendant une permission qu'il va essayer
de régler le problème.
De régler le problème, et ça se passe pas exactement comme il l'aurait souhaité. Donc c'est un film qui parle effectivement de ce principe de la dette qui est vraiment extrêmement présent dans la société iranienne, qui parle de la prison, mais aussi du couple, du mariage, de la position aussi de l'homme et de la femme dans cette société. Et c'est vraiment un pays très marqué par le traditionnalisme, évidemment, mais pas simplement religieux, par le conservatisme, et il y a des liens extrêmement forts et particuliers qui unissent les hommes, les femmes, les voisins, les voisines, les uns et les autres dans cette société. La peine de mort en fait partie, la dette en fait partie, et la prison est extrêmement présente.
Et là, l'ambiguïté, c'est que le personnage, on ne sait pas bien s'il joue
oui,
la comédie.
Oui, le film joue là-dessus.
Et, ou s'il a, voilà,
est-ce qu'on l'aime ou on l'aime pas ?
Est-ce qu'on l'aime ou on l'aime pas ? Alors, à la fin, on a la réponse, hein, bien évidemment. Mais le comédien est phénoménal. C'est et un truc incroyable.
Ah oui, vraiment,
on n'arrive pas à savoir s'il joue.
C'est vraiment un thriller, l'air de rien.
Voilà, c'est un vrai truc.
C'est un thriller qui ne dit pas son nom, mais effectivement, on joue toujours sur ce côté-là.
Et on ne sait pas, on et attend on pas de savoir.
Et c'est un très très beau film. Voilà, c'est deux films iraniens qui vont bientôt quitter les salles, je pense, parce qu'on arrive sur une après-vacances et qu'il va bientôt y avoir des nouveautés. Et que, voilà, autant vivre aussi le cinéma en vrai, dans une salle, avec un écran.
Mais ils y sont encore, voilà. Car ils ont un vrai beau succès d'estime.
Ouais, mais le cinéma iranien existe aussi beaucoup... Par cette présence en France et aussi par une possibilité d'être diffusée.
Et puis ils sont aussi financés par la France et l'Europe. Du coup, voilà, on s'arrête là, c'est ça ?
Eh ben, je pense, ouais.
Eh ben, très bien. Il va être 20h. D'ici quelques microsecondes, on va vous laisser en compagnie des autres programmes de Radio Canu, peut-être des bandes continues.
Bah ouais, sûrement, de toute façon. Hein, voilà. Il faut profiter des bandes continues aussi sur Radio Canu. Voilà, je cherchais, mais on avait vu aussi un très beau film qui s'appelle White Building, si vous avez un jour la possibilité de le télécharger par d'autres moyens, un film cambodgien.
Qui joue plus. Hein.
Ouais. Qui joue plus, malheureusement, voilà, typiquement un film qui aurait pu avoir un beau succès d'estime sur le fait de se faire virer de chez-soi.
De son appartement.
De sa maison, de son immeuble. Voilà, c'est aussi un film très intéressant sur le sujet, parce que c'est un sujet assez mondial.
Ouais, de la quasi-gentrification en fait.
Et c'était, ouais. Oui, c'est de la gentrification, tu peux le dire. Ouais. Voilà, donc c'est dommage que ce film n'ait pas trouvé son public ou n'ait pas eu le temps de trouver son public à Lyon, c'est bien malheureux.
Ouais. On peut dire juste 30 secondes sur Don't Look Up, le film événement de Netflix et qui cartonne. Et ben voilà, si vous voulez comprendre pourquoi tout part en live et pourquoi sur les dérèglements climatiques, aucun politique ne prend de décision, ça vous donne une belle image, une belle idée de ce qui peut se passer et de pourquoi rien n'avance. Le film est vraiment très bien. C'est pas parce que c'est sur Netflix que c'est forcément pourri. Hein. Y a une vraie réussite dans ce film. C'est à la fois drôle et cynique et horrible. Voilà. Donc on peut saluer quand même quand il y a des films qui sortent sur des trucs qu'on défend pas.
Non, mais Netflix a une belle production à l'international. Il y a des pays où il y a des très belles choses qui sont produites, ouais. Et je vois pas pourquoi on irait cracher dessus.
Voilà. Et donc Don't Look Up.
Voilà, et ben on vous laisse définitivement avec de la musique. On vous souhaite une bien bonne soirée et on se retrouve, non allez promis, la semaine prochaine.
On essaye.
On arrête de faire n'importe quoi. Ciao, ciao.